Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les Antipodes.
Et bonsoir Twitch, bonsoir le podcast. Je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'Étrange épisode 14. Et ce soir, je suis en compagnie de Xara Molly.
Coucou. Salut.
Tu vas bien?
Super bien, toi?
Bon ouais, nickel. Ça fait plaisir de reprendre un petit peu les épisodes, un petit peu le podcast.
Mais oui.
Et ça fait surtout super plaisir que tu aies accepté l'invite. Hein.
Ah ben ça fait extrêmement plaisir. Ça faisait plusieurs semaines que j'avais un sujet... à discuter avec vous, j'avais très très hâte d'être de retour, puis je suis dans le meilleur lieu du monde, le chalet, la cabane au Canada.
Mais oui, t'es en direct live de ta cabane dans les bois, donc
oui.
C'est parfait pour raconter des histoires un peu bizarres, quoi.
Des histoires qui font peur.
Ouais, parfait. Avant de commencer cet épisode, je voudrais quand même remercier les super personnes qui ont rejoint mon petit Patreon qui s'agrandit de jour en jour. Donc, merci à Lucie, Constance, Damien, Lipton94, Grégory, Aloïs, Sonia, Clara, Valentin, Marc, Flyspeaks et Ibdi. Et je remercie aussi Rémi et Rildo, que je remercie à chaque épisode, parce qu'ils ont choisi le palier Ultra, Rendez-vous Ultra, et donc ce qui les propulse en tant que producteurs de cet épisode. Donc un grand merci. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail, ça se passe sur patreon.com/jesuisop. Et on a déjà fait des épisodes ensemble privés, donc ça donne accès à ces épisodes-là. On en avait fait des super cool, on parlait de films et tout, c'était pas trop mal.
On a deux épisodes privés vraiment géniaux pour vous. On testait la méthode des épisodes pour les patrons seulement, donc ceux qui apprécient notre duo, vous serez gâtés sur le Patreon.
Donc voilà, ça c'était pour la partie soutien, je pense qu'on va pouvoir attaquer. De quoi tu vas nous parler ce soir, Xara?
Je vais vous parler d'une disparition. C'est ça, une disparition d'une jeune femme, une jeune fille de 16 ans qui est allée travailler un matin et qui n'a jamais été revue. C'en étant suivi la plus grande chasse à l'homme, là, mais bon, recherche dans l'histoire du Massachusetts. C'est okay. Ça ma prémisse.
Ok, alors là, comme ça me rappelle un petit peu la disparition de Léa Petitgat que j'avais traité dans la saison 1, qui elle aussi avait disparu en allant au travail. Mais bon, on en parlera plus longuement.
Oui.
Moi, je vais parler d'une disparition qui a eu lieu en Bulgarie en 2014. Donc à l'époque, cette affaire, elle avait fait le buzz sur Internet, parce qu'il y avait des caméras de sécurité qui avaient filmé sa disparition. La vidéo avait été postée sur YouTube, et elle laisse vraiment perplexe, on la regardera ensemble. Et on va prendre le temps d'en parler ce soir. Donc voilà. Qui commence? On fait comment ce soir pour se décider?
On fait pile ou face.
Ah, attends, j'ai peut-être mieux. On peut faire voter les gens?
Ah oui, c'est bon, on fait.
Allez.
Ça.
Je vais faire un petit sondage dans le chat. Qui commence? Yop, Xara.
C'est souvent moi qui commence, je veux juste dire.
C'est vrai. Allez, ça part sur un vote. C'est dur en même temps, les deux ont l'air folles.
Ah bon? Tu veux dire les histoires ou nous?
Oui, les histoires, je pense.
Ok.
Je pense pas qu'on ait si l'air folle que ça, toutes les deux.
J'espère que non. Yop a gagné!
Oh, 19. Eh ben, c'est moi qui vais commencer.
Oui.
Très bien.
Ça veut dire qu'il y a genre 10 personnes qui n'ont pas voté.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a des personnes qui n'ont pas voté. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça.
Oui.
19. Combien? Voilà, c'est un petit combien.
J'adore
pour le plaisir.
Ce son. Combien?
Bah, c'est parti. Hein. Alors, comme je vous le disais en intro, je vais vous parler d'une disparition qui a fait le buzz sur YouTube à cause d'une vidéo qui a fait des millions de vues. Cette vidéo, prise par des caméras de surveillance, montre la dernière fois où on a vu un homme vivant. Cet homme s'appelle Lars Mittank. Et près de 10 ans après les faits, les circonstances entourant sa disparition demeurent encore un mystère. On le surnomme d'ailleurs le touriste disparu le plus célèbre du monde. Mais d'abord, un peu de contexte. Nous sommes en 2014, le 30 juin plus précisément. Lars Mittank, un jeune Allemand de 28 ans, et ses 4 amis s'envolent pour l'aéroport de Varna, en Bulgarie, pour ensuite aller dans une station balnéaire appelée Golden Sands, ou les Sables d'Or en français. Cette station est une destination européenne assez prisée des touristes étrangers. Il y a 70 hôtels, il y a 30 000 lits, c'est situé au bord de la mer Noire. Je me suis un petit peu renseigné sur cette station balnéaire, et effectivement ça donne pas mal envie d'y passer quelques semaines à boire des cocktails sur la plage, ça a l'air plutôt stylé. C'est d'ailleurs ce que le groupe d'amis a prévu pendant une semaine, en réservant au Viva Club Hotel en all inclusive, c'est-à-dire repas, boissons à volonté. Et eux, leur programme, c'était plage, soirée, filles, piscine, voilà quoi, ils se mettaient bien. Et au départ, le séjour se passe d'ailleurs plutôt bien et le groupe vit sa meilleure vie. Jusqu'au 6 juillet, où un premier incident intervient. On est donc le 6 juillet 2014, la veille de leur retour en Allemagne. Lars et ses amis sont dans un bar en ville et Lars commence à s'échauffer avec d'autres touristes allemands à propos de leur équipe de foot préférée. Lars, c'est un fan de l'équipe de Werder Bremen et il se prend la tête avec des supporters du Bayern Munich. La situation s'envenime et ils en viennent aux mains. Lars prend un coup sur la tête, ce qui le sonne pas mal et ça met fin à l'altercation. Lui et ses amis sortent ensuite du bar et décident d'aller se faire un McDo. À ce moment-là, Lars est assez secoué par les événements et il n'a pas très faim. Alors il décide de rester à l'extérieur du restaurant pendant que ses amis prennent à emporter. Quelques dizaines de minutes plus tard, ses amis, du coup, ressortent du McDo, mais Lars n'est plus là. Bon, à cet instant, ils s'inquiètent pas trop, parce que Lars, il n'était pas vraiment de bonne humeur, alors ils se disent qu'il il avait dû repartir à l'hôtel. L'hôtel, faut savoir qu'il était à 20 minutes à pied du McDo. Donc, ils décident donc de prendre eux aussi la route vers l'hôtel, mais à leur arrivée, pas de trace de Lars non plus dans sa chambre. Lars avait bel et bien disparu. À ce moment-là, dans mes recherches, j'ai pas trouvé vraiment comment ont réagi ses amis. Alors, est-ce qu'ils ont appelé la police ou pas ? Toujours est-il que le lendemain, donc le jour où, le jour du retour en Allemagne, Lars est revenu.
Ah.
Donc là, on peut se dire, tout est bien qui finit bien, on passe à l'histoire suivante. Mais pas tout à fait. Il est rentré roué de coups et raconte à ses amis que 4 hommes russes et ou bulgares auraient été embauchés par les supporters du Bayern pour le tabasser pendant la nuit. Et malgré le fait qu'il n'y avait pas de témoins pour corroborer ses dires, il est de toute façon mal en point. Et comme il a mal à l'oreille et à la mâchoire, il décide d'aller voir un médecin. Et effectivement, on lui diagnostique un tympan perforé et on le redirige vers un spécialiste en ORL dans un hôpital. Et ce spécialiste lui dit qu'il doit se faire opérer. Sauf que Lars refuse. Pour lui, s'il doit se faire opérer, il veut pas que ce soit en Bulgarie, il veut que ce soit chez lui, quoi. Alors le spécialiste lui prescrit un antibiotique pour éviter que son oreille ne s'infecte. Le cefuroxim. Donc je reviendrai un peu sur ce médicament plus tard, parce qu'il est important dans l'histoire. Autre chose importante, le médecin lui déconseille aussi de prendre l'avion à cause des changements de pression qui pourraient lui abîmer les oreilles. Il décide de suivre donc ce conseil et de décaler son vol. Ses amis insistent pour faire de même et rester avec lui, mais lui refuse catégoriquement et leur dit qu'ils peuvent partir, que tout ira bien. Et ses amis confirment d'ailleurs que Lars était détendu et plutôt de bonne humeur à ce moment-là lorsqu'ils l'ont quitté.
Les médicaments font l'effet. Hein.
Peut-être. C'était plus des médicaments pour soigner les oreilles que normalement être euphorisant ou quoi que ce soit. Mais a priori, selon ses amis, ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter à ce moment-là.
Okay.
Ça allait, quoi.
Ok.
Donc, Lars se retrouve seul en Bulgarie. Et la dernière fois qu'il se retrouvait seul, c'était en Bulgarie, ça avait mal tourné. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref, juste après le départ de ses amis, il décide de réserver une nuit au Color. C'est un hôtel bon marché près de l'aéroport. Donc, on n'était plus du tout dans le même standing que l'hôtel où il était avant, qui était super, super classe, quoi, avec la piscine près de la plage et tout. On était vraiment plutôt dans un petit hôtel, pas super bien famé niveau quartier, mais de toute façon, il comptait seulement réserver la nuit du 7 juillet. Le problème, c'est que lors de cette nuit à l'hôtel, il a commencé à délirer et à agir bizarrement. Sur les caméras de sécurité, on le voit a priori. Alors, je dis a priori parce que j'ai pas réussi à retrouver ces vidéos, mais on le voit en train d'épier à travers une fenêtre, de faire les 100 pas et de se cacher aussi dans un ascenseur.
Ça fait un peu Elisa Lam, non ?
Exactement, ouais. Ça fait un peu Elisa Lam. On l'a traité d'ailleurs dans l'épisode 12. Ouais. Bah, elle aussi, elle se cachait dans les ascenseurs. Elle était troublée, elle était apeurée. Bah, c'était dans un hôtel aussi. Et son corps avait été retrouvé quelques semaines plus tard dans une citerne d'eau de l'hôtel.
Ouais.
Donc ça n'indique rien de bon.
Elle pouvait avoir l'air intoxiquée ou délirante ou on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle avait là.
Ouais. Sachant que lui aussi, il était décrit comme apeuré, comme paranoïaque. Donc ça a quand même des airs hein, d'Elisa Lam. Ouais. Durant la nuit, Lars appelle plusieurs fois sa mère au téléphone. Sandra Mitank, il lui dit qu'il se sent pas bien du tout, qu'il se sent pas en sécurité, et son discours il est super décousu. Il lui dit qu'elle doit bloquer ses cartes bancaires parce qu'il y a des hommes qui en ont après lui. Il lui dit que c'est quatre hommes qui lui veulent du mal. Il parle de pilules pendant la conversation. Il demande aussi des infos sur le médicament que lui a donné le médecin, comme si elle avait pas confiance en fait à ce médecin. Donc, est-ce que cet état pourrait être un effet secondaire du médicament ? Ce médicament, en fait, c'est vraiment un antibiotique assez basique. Hein. Il est utilisé pour traiter des angines, des bronchites, des otites, tout ce qui est sinusite. Mais normalement, t'es pas censé délirer.
Mais est-ce qu'il aurait pu être drogué la veille ?
On n'a pas retrouvé son corps, spoiler alert, donc on ne saura pas. Mm. Mais possiblement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu toute une nuit où on ne sait pas trop ce qui s'est passé.
Ouais.
Pour en revenir aux médicaments, j'ai quand même fouillé sur Internet. Il existe un article qui date d'ailleurs justement de 2014 qui décrit un cas rare d'une femme de 35 ans qui a développé une psychose aiguë suite à l'administration de céphiroxime et d'un autre antibiotique, le métronidazole. Mmh. Et donc, il y a eu des changements d'humeur qui sont produits, elle a eu des hallucinations, des délires, des comportements bizarres. Et par contre, tout a disparu, tous les états de psychose ont disparu complètement dans les 5 jours après avoir arrêté les antibiotiques. Mais a priori, c'est pas vraiment cet antibiotique-là, mais plutôt le mélange des deux qui aurait provoqué cet état. Et encore une fois, on est vraiment sur un cas très rare. Il a seulement été documenté une seule fois.
Est-ce qu'on sait s'il prenait une médication ?
A priori, non.
Okay.
Il n'en prenait pas,
okay.
Selon sa famille. On peut quand même se poser la question, est-ce qu'il a respecté la dose recommandée, tu vois, par le médecin ?
Mmh.
Est-ce qu'avec la douleur, il n'en aurait pas pris plus ? Et du coup, si tu surdoses, tu peux quand même avoir des effets secondaires. Là, on n'a pas la réponse non plus.
Ouais.
Il y a Origine qui demande dans le chat, aurait-il pu prendre des médocs antidouleurs plus alcool ? J'ai pas cette info-là. En tout cas, on lui en a pas prescrit. Mais ça peut quand même se trouver hors prescription.
Mmh. Puis on peut pas faire d'analyse toxicologique parce qu'on n'a pas de corps. C'est ce que je comprends. Mais là, il n'est pas encore complètement disparu, notre ami.
Ouais. On est toujours dans la nuit, là, dans la soirée du 7 juillet. À l'hôtel. Les caméras de surveillance l'ont pris en vidéo en train de quitter l'hôtel vers 1h du matin, puis y revenir à un moment donné pour terminer sa nuit. Personne ne sait où il est allé. Il est vraiment parti en pleine nuit. Il est revenu. Maintenant, je vous propose de passer à la journée suivante, le 8 juillet. Donc ça, là, c'est vraiment là, c'est la journée de sa disparition. Lars quitte l'hôtel en taxi tôt le matin pour rejoindre l'aéroport avec ses bagages et son sac à dos. Il donne des nouvelles à sa mère, qui n'a pas dû passer une bonne nuit également, je pense. Elle devait pas mal flipper. Mais en tout cas, ce matin-là, il semble aller mieux. Sa mère lui a pris un billet retour pour l'Allemagne, mais lui conseille quand même d'aller consulter un médecin dans le centre médical de l'aéroport. Et c'est ce qu'il fait. Il se retrouve donc dans le cabinet du médecin de garde de l'aéroport, le docteur Kosta Kostov. Donc plus tard, l'homme a expliqué à la police que Lars n'était pas dans son état normal. Il divaguait, il était très anxieux et il semblait épuisé émotionnellement. Et il aurait posé des questions sur son traitement aussi. Et là, on arrive au moment qui fait que l'affaire en fait, a fait le tour des internets en 2014. 45 minutes après son arrivée à l'aéroport, on le voit sur les caméras de sécurité s'enfuir sans ses bagages, en courant pour aller se perdre dans la nature. Ce sont les dernières images qu'on a de lui à ce jour. On ne l'a plus jamais revu. Alors pour ceux qui sont live sur Twitch, je vais vous montrer les vidéos qu'ont capté les caméras de surveillance de l'aéroport. Donc l'aéroport de Varna, le 8 juillet à 6h du mat. Pour ceux qui sont en podcast, je vais vous faire l'audio description. On vient de voir une vidéo d'une minute montrant d'abord Lars arriver à l'aéroport en t-shirt jaune et en bermuda foncé avec ses bagages. À un moment donné, il semble discuter avec une employée qui lui indique la direction du centre médical. La vidéo se coupe, puis on le voit ensuite sortir de ce même endroit, en courant, en laissant derrière lui toutes ses affaires, notamment son portefeuille, son passeport et son téléphone. Donc il quitte l'aéroport en courant, sans s'arrêter, et il continue à courir dans la nature, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc voilà, c'est une vidéo assez étrange qui est devenue virale par la suite. Les enquêteurs d'Internet ont tenté de résoudre le mystère, mais en vain. Aucune piste n'a permis de le retrouver.
C'est vraiment bizarre.
Donc, bah voilà pour l'histoire de Lars Mittank. Comme d'habitude, on va passer aux théories. Donc si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, on va les lire. En attendant, je peux vous en donner quelques-unes que j'ai trouvées sur Internet. La première théorie, donc, c'est la théorie de la mauvaise rencontre. Est-ce que suite à la bagarre qui s'est passée au bar, il s'est fait repérer par un gang ou par un réseau et que 4 hommes le suivaient réellement? Si oui, qu'est-ce qu'il lui voulait? Est-ce que ça pourrait être lié à un réseau de trafic d'organes ou de drogue, sachant qu'en Bulgarie, c'est assez commun finalement. C'est un pays qui a la réputation d'avoir justement pas mal de réseaux de trafic assez puissants. Est-ce qu'il aurait énervé les mauvaises personnes? C'est possible. Après, quand même, le truc, c'est que dans la vidéo, on le voit partir de son propre chef. Il n'y a personne qui le poursuit.
Non, il est comme tout seul, puis il a l'air de savoir où il va. C'est ça qui est bizarre. Il se retourne pas, il n'a pas l'air de chercher, il n'a pas l'air... Il a comme l'air empressé, mais...
C'est vrai qu'il est, il est pas en mode sprint, il est plus en mode marathon. Enfin, tu vois, il court pas ultra vite, quoi.
Ouais, c'est un bon commentaire de Xalinette qui dit « Je me demande si dans son délire, il n'est pas tombé dans un cours d'eau. » Peut-être. S'il n'a jamais été retrouvé puis on n'a jamais retrouvé de corps, il peut être arrivé toutes sortes de trucs, c'est certain. Quoique s'il était tombé dans l'eau, un corps finit par flotter.
Il y a Striker qui dit « L'hypothèse du médicament est la plus plausible. » Ouais, effectivement. Après, normalement, le médicament n'est pas censé produire ce genre d'effet secondaire. Mais j'ai quand même une théorie sur les troubles mentaux, quoi. Déjà, Lars, il n'a aucun antécédent à la matière. Il n'a jamais vécu quoi que ce soit pouvant appuyer une théorie impliquant des troubles mentaux. Mais il a quand même reçu un mauvais coup dans la bagarre.
C'est vrai.
Qui aurait pu, par exemple, donner lieu à une rupture du conduit auditif, voire même une liaison cérébrale. En gros, il aurait pu avoir des hallucinations ou des troubles paranoïaques parce que son cerveau a été touché. À ce sujet, les passagers avec qui partageait son taxi ont indiqué qu'il avait les pupilles dilatées. Alors, on sait que c'est souvent provoqué par la drogue, mais ça peut aussi l'être quand on a une commotion cérébrale. Mais ouais, on va quand même parler de drogue, parce qu'il a quand même... ingérer un médicament. Alors, est-ce que ce serait un effet secondaire ou alors une autre drogue qu'il aurait pu prendre, qu'on aurait pu lui administrer sans qu'il le sache?
Mais oui, c'était Life of the Party. Ouais. Là. Il était dans son resort en Bulgarie toute la semaine avant. Il y avait des filles, il y avait des gens. T'sais, on ne sait pas.
Ouais.
Il peut avoir pris de façon volontaire ou involontaire des substances
ou involontaire,
qui l'affectent.
Ouais. C'est ça. Je pense que ça vient du bar. Soit la bagarre en elle-même, soit un truc qu'il a pris dans le bar, parce que c'est à son arrivée au McDo qu'il a commencé à agir bizarrement. À ce moment-là, il n'avait pas encore pris le médicament qu'on lui avait administré. Par contre, il avait reçu un sérieux coup au tympan, quoi.
Ça se peut très bien, parce que j'imagine, ils sortent au bar, ils dansent, ils boivent. Ça se peut qu'il ait consommé soit trop d'alcool, soit de l'alcool mixé avec une drogue, peu importe quelle drogue. Disons, ils sortent du bar, ils s'en vont au McDo. Lui attend dehors parce qu'il se met à se sentir mal un peu. Puis il décide de marcher pour prendre l'air. Dans le fond, peut-être que c'est pas lié la drogue avec l'attaque, qu'on ne sait pas après, tu sais. Peut-être juste qu'il était dans une position vulnérable qui fait que, bon, ça peut être les hommes du foot, mais ça peut être autre chose aussi complètement. Si, par exemple, il ne se sentait pas bien, il est allé vomir dans la ruelle, puis là, ça se peut là, qu'il y ait des gens en fin de soirée qui cherchaient à se battre.
Oui.
Je sais pas.
Il y a Crapulette qui dit dans le chat, est-ce que quand il a disparu la nuit, de son gré ou pas, à ce moment-là, est-ce que ça peut être du GHB qui n'aurait pas été compatible avec son médoc pour son oreille? C'est vrai qu'il y a quand même ce flou. Bon, on ne sait pas ce qu'il a fait à ce moment-là. Déjà, pourquoi il est sorti de son hôtel? Parce qu'a priori, il connaissait personne en Bulgarie. Il est venu avec des potes.
Ouais. Puis ils sont repartis.
Il y a une théorie comme quoi, d'ailleurs, alors j'en ai pas trop parlé. En fait, il y a pas mal de théories qui sont un peu plus farfelues, comme quoi il était possédé, ou choses comme ça, ou qu'il aurait rencontré une fille, qu'il aurait voulu rester avec elle. Il y en a une comme quoi il aurait pu passer de la drogue. Mais ça me semblait un petit peu too much, quoi. Je pense qu'on va chercher trop loin.
C'est pour ça qu'il aurait été bizarre.
Bah, parce que quand tu passes de la drogue, tu as des sachets en toi.
Oui, oui.
Et là, okay, aurait pu, ça, tu vois,
il y aurait une rupture du sachet.
Ouais. Aïe.
OK. Ouais, ouais. Potentiellement.
Peut-être qu'on aurait pu lui forcer à passer de la drogue lors de son altercation, là, où il aurait été toute la nuit. Mais là, j'en doute fortement. Parce que j'imagine qu'il en aurait quand même parlé à ses amis à ce moment-là, tu vois. Quoique, sauf s'il avait vraiment trop peur, tu vois.
Ouais, c'est quand même fait bien tabasser.
Je l'ai quand même classé dans les théories farfelues. Hein.
Oui.
Pour moi, on va la chercher très loin, celle-là.
Oui.
Perso, de mon côté, je penche quand même plutôt sur la lésion cérébrale suite au coup qu'il a reçu lors de la bagarre. Il était clairement pas bien déjà après l'altercation. Quant à la police, c'était plutôt la piste de la drogue qu'elle envisageait. Alors, pas le fait que ce soit une mule, hein. Mais comme quoi il serait devenu un drogué et qu'il aurait perdu ses esprits.
Il serait devenu un drogué du jour au lendemain.
C'est la théorie de la police, comme quoi il pensait à trouver de la drogue le plus vite possible et c'est pour ça qu'il se serait mis à courir.
Non.
Je trouve que c'est encore limite plus tiré par les cheveux que la théorie de la mule. Je ne sais pas pourquoi ils en sont venus à cette théorie.
C'est n'importe quoi.
Enfin, tu vois, c'était des jeunes... ils étaient là pour faire la fête. Or, il y a peut-être eu de la drogue, mais de là à ce que ça devienne un junkie en deux jours, tu vois. Il y a sa famille en fait qui a indiqué qu'il n'avait aucun antécédent avec la drogue. Il vivait une vie normale, c'était un employé dans une centrale. Voilà, est-ce qu'il aurait consommé pour la première fois en Bulgarie, puis qu'il se serait devenu un addict en trois jours?
Ouais, non, c'est de la grosse chaud, drogue, si c'est le cas.
Ouais, on en a pas par chez nous, tu sais, j'ai l'impression. Donc là, on a parlé de la théorie de la police. La famille et les amis avaient aussi un petit peu leur théorie. Et pour eux, c'était plus la piste du trafic d'organes qu'ils privilégient. Mmh. Parce que justement, comme Lars, il se droguait jamais. Bah pour eux, il serait tombé en fait, sur les mauvaises personnes au mauvais moment. Pour eux, il était suivi. Enfin, ils croient ce que dit Lars, en fait, tout simplement. Comme quoi, bah, il était suivi, qu'il y a des gens qui lui voulaient du mal.
Mais ça se peut, là, je veux dire. Combien de fois on a entendu des histoires de touristes qui se font poursuivre, qui se font battre, qui se font agresser, je veux dire... Clairement, Lars avait pas un physique de Bulgare.
Non.
Tu sais, je pense que peut-être la langue ne ressemble pas à une langue russe ou en tout cas, je sais pas comment on appelle les familles de langues, les slaves. Bref, tu sais, s'il est allé boire avec des amis et tout, probablement qu'il détonnait. Non. Tu sais, je veux dire, clairement, c'est possible que ça soit. Ça se peut que ça soit de la violence gratuite, hein?
Ouais, non, mais c'est... on est en Bulgarie, hein?
Ouais.
Tu vois, c'est pas le monde des bisounours. Ben, il y a bien des réseaux, il y a bien du trafic d'organes, de drogue.
Ça se peut très bien.
Après, c'est effectivement, normalement, enfin, ils étaient quand même dans un endroit assez touristique. Mais bon, en Bulgarie.
Peut-être qu'il y a une question dans le chat. Si c'est du trafic d'organes, pourquoi c'est dans l'aéroport qu'il a pris peur? Mais tu vois, moi, je trouvais pas qu'il avait l'air d'avoir si peur. Quoi qu'il peut avoir vu quelqu'un qui ressemble à un de ses agresseurs ou, tu sais, peut-être que... ou sinon, c'est complètement autre chose.
Ben effectivement, j'en ai pas parlé. Il a pris peur parce qu'il y a quelqu'un qui aurait interrompu, en fait, l'examen, enfin, qui serait rentré dans la salle d'examen, un employé de l'aéroport. Et du coup, en le voyant, il a pris peur et il s'est mis à courir.
tu sais, OK. Les éléments weird, là. Bon, premièrement, il y a le fait qu'il soit disparu la veille du départ de ses amis. Ensuite de ça, la deuxième chose bizarre, c'est quand ses amis sont partis, puis il est allé à son hôtel, puis au Color, là. Il est parti, il est revenu, mais...
Ouais.
Est-ce qu'il y a des vidéos de ça? Ben oui, il y a des vidéos de ça, on le voit partir et revenir, c'est ça?
Ouais, okay. On le voit pas, par contre, entre...
Non. Qu'on sait pas où il est allé, mais est-ce qu'on sait s'il y a une différence entre l'état où il est parti puis l'état où il est revenu?
A priori, pas de différence.
OK. Enfin, il est peut-être juste sorti. Enfin,
ouais, parce que le matin, selon sa mère, il allait bien.
OK. Puis après...
Il allait à l'aéroport à 6h du mat', en fait. Il est arrivé à l'aéroport.
Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu de la drogue, là. C'est peut-être fait droguer l'autre soirée. Parce que
la deuxième soirée?
Ben oui.
Où il part à 1h du mat'?
Ben
ou
oui.
Ou même la première, hein. En vrai, même la première, hein. Il aurait pu se faire...
Mais en fait... OK, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est la deuxième soirée. La deuxième soirée, quand il est au Color, il est tout seul, ses amis sont partis. C'est là où il sort, il revient, puis c'est le lendemain qu'il quitte vers l'aéroport, c'est ça?
Ouais.
Donc, si, par exemple, il agit bizarrement, c'est suite à cette soirée-là. Je veux dire, là, si je comprends qu'il a été tabassé, mais ça fait deux jours. Je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas à quel point...
En fait, j'ai quand même l'impression qu'il avait des passages où il délirait, après, ça allait mieux. Ou...
Okay.
Tu vois, même après la baston, tu vois, on sentait que... la première, tu vois, celle du bar, on sentait qu'il n'était pas très bien, tu vois. Après, c'était peut-être juste lié au coup. Mais... moi, je pense que... alors, il y a Crapulette, il y a Popalichus qui dit que ce serait pas un stress post-traumatique lié à l'agression. Moi, ouais, je suis plus à me dire, effectivement, les coups qu'il a reçus, peut-être qu'il a eu tout simplement une lésion cérébrale, lésion cérébrale, pardon. Et hallucinations, troubles paranoïaques, voilà quoi.
Puis le médecin aurait pas vu?
Le médecin, c'était un spécialiste des oreilles.
Ah oui.
Après, le deuxième médecin, enfin le dernier plutôt, celui qu'il a vu à l'aéroport, c'était un médecin généraliste. Et lui, il a bien vu qu'il était pas bien, quoi. Enfin, il divaguait, quoi. Il n'était pas dans son état normal.
Puis il s'en allait prendre l'avion, même s'il y avait une lésion dans l'oreille.
En fait, il voulait justement aller voir le médecin pour avoir un avis médical avant de prendre l'avion.
C'est bizarre tout ça. Et ça peut être tellement de choses. Tu sais, il y a de la peur là-dedans, il y a peut-être de l'intoxication, il y a peut-être des lésions cérébrales, il y a peut-être... Puis quand tu mélanges tout ça, ça fait des comportements bizarres.
C'est peut-être un mix, hein, finalement, de tout. Ouais, pour moi, il y a une liaison cérébrale. Peut-être que ça s'est mixé avec... en plus qu'il était paranoïaque, il y a peut-être vraiment des personnes qui lui voulaient du mal parce qu'il a quand même été tabassé pendant une nuit. Hein.
Ouais.
Donc, tu m'étonnes que tu sois un peu paranoïaque après, quoi.
C'est bizarre.
Quoi qu'il en soit, il y a quand même un avis de recherche qui est toujours diffusé. On a une récompense de 40 000 euros qui est offerte. Il aurait été vu au Brésil en décembre 2016, mais finalement, c'était pas lui. C'était un randonneur qui s'était pas rasé et qui ressemblait un petit peu à la photo de droite de Lars en version barbu. Pareil en 2018 en Italie, mais c'était pas lui. En juillet 2019, à la suite d'une émission télé sur le sujet, un chauffeur de camion a indiqué avoir pris un SDF en stop qui ressemblait beaucoup à Lars. La personne était très mince et parlait que quand c'était nécessaire parce qu'il était trop fatigué. Mais il s'est avéré que c'était pas non plus Lars. Donc sa mère, elle est aussi apparue dans beaucoup d'émissions à la télé, à la radio au fil des années. Elle essaye toujours désespérément de résoudre le mystère de la disparition de son fils. Mais malheureusement, malgré la couverture médiatique, ça n'a jamais donné aucun résultat. Voilà où on en est en 2023, près de 10 ans après sa disparition. Ce qu'on peut dire sans trop se mouiller, c'est que Lars est certainement mort à l'heure actuelle. Hein, et que malheureusement, les circonstances autour de sa disparition ont bonne chance de rester un mystère.
En 2014, tu peux pas juste disparaître de la surface de la Terre.
Il y en a qui le font, hein, il y en a qui y arrivent.
Ouais.
Mais c'est chaud.
Est-ce qu'il aurait voulu disparaître? On n'en a pas parlé.
Il n'avait pas spécialement de raison. Il y avait aussi une théorie comme quoi, là, on le voyait partir dans la pampa, là. Il se serait fait bouffer par un animal, je ne sais pas. Il serait tombé, aurait fait une mauvaise chute. Comme tu disais, peut-être, c'était toi qui disais tomber dans l'eau. Ouais. Il était dans un pays inconnu, il avait laissé tous ses papiers.
Ouais, c'est vrai.
Il divaguait. Finalement, il avait il avait de bonnes chances qu'il lui arrive pas mal de problèmes, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le seul touriste à disparaître dans un pays étranger. C'est pas la première fois qu'on entend une histoire comme ça. Pas nécessairement en Bulgarie, mais je veux dire, des touristes qui disparaissent, ça je veux dire, c'est vraiment pas la première histoire qu'on entend. Je me pose quand même des questions sur ses amis qui l'ont laissé là. Il y a personne de ses amis qui a décidé de rester avec lui, même s'il était vraiment mal en point.
Ouais, c'est vrai que quand en tant qu'ami, tu vois, t'as quelqu'un qui vient de se prendre, prendre une raclée, tu vois, la veille, tu te dis, bah, je vais peut-être pas le laisser tout seul dans un pays inconnu, sachant que la dernière fois qu'il a été tout seul, bah, ça s'est mal passé.
Ouais.
Il y avait 4 amis avec lui. Bah, il y en a au moins un qui reste.
C'est moyen, là. Puis, les amis, j'imagine, qui ont été interrogés, qui a mené l'enquête là-dedans?
Alors, il y a eu la police allemande et police bulgare. Mais en fait, le problème, c'est que la police bulgare n'est pas vraiment coopérative.
Ouais,
quoi.
Je m'en doute.
Donc, au final, la police allemande, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Mis à part diffuser un avis de recherche.
Ouais,
compliqué.
Parce
quoi.
Qu'il n'y a pas de corps, donc théoriquement, c'est pas un meurtre, c'est juste une disparition. Bref, Lars, il est mal tombé. Il est vraiment mal tombé. Quelle fin de voyage malheureuse.
Et c'est dommage parce que bah voilà, il était parti pour prendre une semaine de chill, de bon temps, de plage. Et voilà.
Est-ce qu'il aurait rencontré peut-être une femme qui l'attire?
Ça fait partie des théories sur lesquelles je suis tombé, comme quoi il aurait pu rencontrer une femme, genre qu'il aurait, qu'il serait genre instant tombé amoureux, tu vois, et genre il veut lâcher toute sa vie pour vivre avec elle. Mais non, tu fais en sorte quand même de faire les choses bien. Enfin, je sais pas. même dans un scénario de film, tu fais pas ça. Je sais pas.
Non, mais si elle, c'est un appât pour le trafic d'organes, j'y reviens, mais c'est ça. Je sais pas. C'est dur à dire.
Eh ben, je pense qu'on a fini avec notre premier sujet. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses? On va pouvoir passer à ta disparition parce que tu traites également une disparition.
Oui. Aujourd'hui, je vous parle de la triste histoire de la disparition de Molly Bish. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un?
Alors moi, pas du tout.
OK. Donc, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la plus grande recherche de personnes disparues au Massachusetts à ce jour. Molly Bish, 16 ans, était à son travail. Elle n'a jamais été revue vivante et à ce jour, aucun suspect n'a formellement été accusé. Je fais un petit historique. Molly Ann Bish est née le 2 août 1983 à Warren, au Massachusetts. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un état de la côte est américaine aux États-Unis. Elle est la plus jeune de 3 enfants. Sa mère, Maggie, est enseignante et elle est mariée avec son père John depuis des années. Ils sont également originaires du même coin de pays. Molly est une enfant enjouée et aimée de tous. Elle devient une adolescente qui aime le sport et l'activité physique. Elle pratique notamment plusieurs sports d'équipe comme le basketball et le soccer. Étudiante modèle, elle avait de très bons résultats scolaires et aurait même eu des mentions d'honneur. On peut en déduire que c'était une jeune fille sérieuse, engagée et organisée. À l'aube de l'été 2000, elle a 16 ans et il lui reste un an d'études avant de graduer de l'école secondaire. À ce jour, elle aimerait devenir enseignante comme sa mère et elle a un petit copain. En remplacement de son grand frère John, elle décroche enfin son premier emploi comme maître nageuse, lifeguard, près de chez elle, au Cummins Pond. C'est un lac artificiel qui est entouré de boisés, un peu isolé du reste de la ville. C'est une excellente nageuse et elle peut enfin commencer à acquérir de l'expérience de travail auprès d'enfants. Notamment, elle supervisera les cours de natation et sera entourée de familles et d'enfants durant tout l'été. Donc, elle a très hâte de débuter son emploi. Le matin du 26 juillet 2000, c'est sa 7e journée de travail et c'est la veille de sa disparition. Une de ses bonnes amies se fait frapper alors qu'elle revient chez elle à vélo. Cela ébranle passablement Molly, qui est décrite comme une personne très proche de sa famille et de ses amis. Elle va quand même travailler ce matin-là. D'ailleurs, sa mère Maggie va la reconduire en voiture. Quelque chose d'étrange se produit pourtant. Alors que l'air de baignade est fermé, il y a un homme qui est assis dans une voiture d'un plutôt vieux modèle de voiture de couleur blanche dans le stationnement. Et la mère Maggie n'aime pas vraiment cette présence. L'homme semble les fixer. Il fume sa cigarette. Donc, comme la mère Maggie ne veut pas alarmer sa fille, mais ressent quand même un sentiment d'urgence, elle décide d'aller reconduire sa fille près du bord de l'eau à pied et prend son temps pour discuter avec elle, un peu étirer le temps, voir si l'homme va quitter. Parce qu'en fait, là, les premiers jours de travail de Molly, l'air de baignade est ouverte, mais il n'y a pas encore de cours de natation. C'est comme si l'année scolaire n'était pas terminée. Donc, il y a très peu de gens, mais au moment où ça ouvre, il n'y a pas des lignes de gens qui attendent là. Donc, c'est pas vraiment normal qu'un homme seul fume dans sa voiture. C'est pas chose commune. Donc, la mère retourne à sa voiture, puis elle peut pas vraiment chasser ce sentiment de malaise qu'elle ressent. Donc, elle observe l'homme dans sa voiture, fait semblant de chercher des trucs, elle sent vraiment pas bien. Et elle va l'observer durant un long moment. Donc, elle arrive vraiment à retenir le visage de l'homme parce qu'elle l'a observé. Puis lui, il se met aussi à la fixer. Puis il ferme ses yeux comme ça pour la regarder. Tu sais, là. C'est comme s'il la dévisageait. Puis il finit par repartir. Au retour de sa journée de travail, Molly ne relate aucun incident étrange à sa mère, donc elle n'en fait pas plus de cas. Elle n'en a pas parlé à sa fille non plus, parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Donc, le lendemain, le 27 juin, c'est drôle, parce que ton histoire s'est passée le 30 juin. le lendemain, le 27 juin, Maggie retourne reconduire Molly à son lieu de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille était très impliquée. Disons, tu sais, c'est une petite communauté, le frère a travaillé là, la mère dit « bon, je vais aller te reconduire », son ami s'était fait frapper à vélo, donc je pense que Molly est un peu ébranlée, c'est pour ça que sa mère allait la reconduire. Puis de toute façon, de ce que j'ai compris dans ma recherche, c'est que c'était son premier emploi, puis elle voulait être sérieuse, elle voulait être là à l'heure et tout ça. Le lieu de travail n'était pas très loin de sa maison, c'est vraiment pas pour ça, c'est plus être à l'heure, puis je pense que ses parents voulaient aussi qu'elle soit en sécurité pour se rendre au travail. Donc, le 27 juin 2000, Molly se rend au travail avec sa mère. Elle était vêtue de son maillot, une pièce bleue et d'un short kaki. Les deux femmes s'arrêtent à une station-service pour chercher des bouteilles d'eau et un talkie-walkie. En 2000, il n'y a pas vraiment de cellulaire comme il y avait de téléphone portable comme maintenant. C'était plutôt avec des talkie-walkie là, qu'on pouvait échanger ou qu'on pouvait entendre les canaux de la police ou rejoindre quelqu'un en cas d'urgence. C'est ce matin-là que les cours de natation devaient débuter, là, donc que le lac artificiel ouvrait officiellement sa saison. Molly est très énervée de tout ça. Elle arrive au lac artificiel entre 9h50 et 10h, très fébrile de son nouveau défi professionnel. À leur arrivée, Maggie est quand même... elle observe les environs à la recherche de la voiture blanche, ouais, de l'homme qu'elle avait vu la veille, mais elle ne le voit pas. Il y a plutôt un camion Ben d'une compagnie locale qui est en train de verser du sable sur la plage, donc rassurée par la présence des travailleurs, Maggie laisse sa fille à son lieu de travail et repart aussitôt. C'est malheureusement la dernière fois qu'elle reverra sa fille Molly, qui est mystérieusement disparu entre son arrivée et le début des cours de natation qui devaient débuter entre 10h30 et 11h.
Fait très rapidement, en fait.
Ce qui est arrivé, c'est que les familles se sont mises à arriver avec les enfants et ont réalisé qu'il n'y avait pas de maître nageur sur place. C'est comme si Molly ne s'était jamais présentée. Sauf ce qui est bizarre, c'est que tous ses effets personnels étaient là, sur le bord du lac. Comme elle ne s'est jamais présentée, il y a un parent qui a pris la relève. Donc, sa chaise de maître nageur était installée là où elle devait. Il y avait une serviette pendue sur le dossier. Les sandales de Molly étaient devant la chaise et sa trousse de premiers soins était ouverte par terre.
Donc, ça veut dire qu'elle avait quand même eu le temps d'installer ses affaires.
Oui, exactement. Donc, bon, comme il n'y avait pas de professeur, de maître-nageur, ben, le patron de Molly a été avisé par les parents qu'il n'y avait personne qui était sur place. Ça a pris environ 3 heures avant qu'on avise les parents. Et inquiète, Maggie appelle tout de suite la police qui n'en fait peu de cas. Donc, comme dans plusieurs autres cas de disparition, on va dire, bon, peut-être qu'elle a juste quitté, qu'elle est inquiète parce que son ami avait été blessé. Peut-être que son copain est venu la rejoindre puis ils se sont sauvés pour la journée. Peut-être qu'elle elle était énervée, est allée marcher pour prendre l'air. Mais tout ça, c'est vraiment pas cohérent avec qui Molly était. Cet emploi-là, elle le voulait vraiment. Elle était très fière. Jamais elle serait partie pour aller embrasser son copain dans le boisé pendant qu'elle était censée s'occuper des enfants. C'est vraiment pas son genre. Donc, c'est pas avant le lendemain qu'on va déployer des unités de recherche. C'est souvent, on attend 24 heures.
Ouais, je trouve ça un peu long parce qu'elle était quand même mineure.
Ouais, mais c'est une adolescente plus vieille. Est-ce que c'est une fugue? Est-ce qu'elle est avec son copain? Est-ce qu'elle est avec des amis? Bon, la police a dit aux parents de ne pas s'inquiéter.
OK. Tu sais quand est-ce que les parents ont appelé la police? Ou alors c'est peut-être le...
Tout de suite. Quand la mère a été avisée, elle savait tout de suite que c'était pas normal.
Ouais.
Donc, le frère de Molly, a été plongé dans le lac. On se souvient que c'était lui l'ancien maître-nageur pour aller voir si on n'aurait pas trouvé sa sœur, parce qu'au départ, c'était l'hypothèse qu'elle était noyée. Encore une fois, c'est une maître-nageuse, c'est pas l'océan, c'est vraiment un petit lac artificiel. Très peu de chances qu'elle se soit noyée. Donc, il l'a quand même fait, il est quand même allé voir, mais ils n'ont rien retrouvé dans le lac.
C'est quand même abusé de demander à son frère de faire les recherches.
Non, c'est lui qui le fait.
Ouais.
Là,
c'est de son plein gré.
Ouais. Il y avait aussi d'autres nageurs qui ont été déployés. Ils ont fouillé le lac, le boisé, les alentours. Ils ont sorti les chiens aussi. Ils ont exploré le sol. Il y avait des brigades. Ils ont exploré aussi à partir des airs avec des hélicoptères. Ils n'ont rien vu, rien trouvé.
OK.
Volatilisé. Complètement. Aucune trace de Molly, aucun indice qui peut déterminer où elle est. Donc, il y a une question dans le chat. Est-ce qu'elle s'en souvient très bien ou ça a été filmé parce qu'il y a beaucoup de détails? Non, elle dit qu'elle s'en souvient. Ça n'a pas été filmé. Elle n'a pas filmé le gars. De toute façon, en 2000, sur les téléphones portables, il n'y avait pas de caméra. Donc, c'est juste que je pense qu'elle était en mode panique puis elle essayait de retenir tous les détails qu'elle pouvait à propos du visage de l'homme.
Ouais, donc elle avait bien vu quand même qu'il y avait un problème. Mais pour elle, vu que le lendemain, elle l'a pas revu, bon bah...
Non.
Elle l'a laissé couler, quoi.
Exact. Puis elle s'est sentie... Tu sais, elle avait vraiment un drôle de sentiment. Puis souvent, c'est ce qu'on va voir dans ces histoires-là, hein, de disparition. On dirait que les mères ont toujours une espèce d'instinct.
Ouais.
De « Ah, oh, il y a quelque chose qui va pas. » Ou j'ai tellement entendu ça souvent, une mère qui le sait tout de suite que c'est pas du tout le genre de son enfant de disparaître comme ça. Ou de pas laisser de traces, etc. Donc, voilà. Donc, au niveau des hypothèses, le gros des recherches a été concentré, évidemment, sur l'homme louche de la voiture blanche qui portait une moustache. Maggie est convaincue qu'il y a quelque chose à voir dans l'histoire. Et ça donne par la suite dans l'enquête que lorsqu'ils ont interrogé les travailleurs qui ont déversé le sable le jour de sa disparition, ils ont vu la voiture blanche dans le stationnement au courant de la journée du 27, mais pas au moment où elle est venue reconduire Molly, mais après.
Okay.
Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Maggie finit par embaucher des dessinateurs de profil. C'est pas un portrait robot, là, c'est dessiné. Que je ne veux pas dire portrait robot, mais c'est vraiment comme un dessin du suspect. Donc, elle passe une demi-journée à décrire le suspect et fait même ajouter une version du portrait où il fume parce que son visage est différent. Elle se souvient précisément de ses yeux plissés, de sa bouche, de la façon dont ses cheveux sont coiffés vers l'arrière. Elle s'en rappelle parfaitement. Donc, pour elle, il n'y a aucun doute La photo circule activement dans les corps de police. On installe des barrages, on passe au crible les bases de données d'empreintes digitales, les bases de données de criminels, de prédateurs sexuels actifs et passés, mais sans succès, on ne retrouve pas l'identité de l'homme. Désespérés, les parents vont lancer un site web pour trouver leur fille Molly, dans l'espoir de recueillir des renseignements ou des indices. Ils font l'envoi de la photo de leur fille à plus de 35 000 personnes, journaux locaux et sources d'informations. Il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là.
Ouais, même un site web, ils étaient vachement en avance.
Ils se sont lancés. Mmh. Ouais. C'est des parents, c'est une famille de classe moyenne, mais relativement aisée pour, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y a pas mention qu'ils étaient pauvres ou quoi que ce soit, là. Il me semble classe moyenne. Donc, le cas de Molly Bish, suite à ses envois, fut le sujet de plusieurs émissions et documentaires, dont notamment le fameux Unsolved Mystery. Donc, on peut retrouver cet épisode-là, où est-ce qu'il y a des entrevues, on voit la mère, on voit le père, on voit les amis. Donc, c'est un complément d'information très intéressant. Les parents et familles entretiennent encore l'espoir que Molly est quelque part saine et sauve durant les premières années. La recherche se termine de façon funeste en 2003, soit 3 ans après la disparition, lorsque des restes humains ont été trouvés à Palmer, au Massachusetts, à environ 12 km du lieu de résidence de Molly et d'où elle a été enlevée. Tout débute par une trouvaille majeure à l'automne 2002, soit 2 ans après la disparition. Un chasseur trouve dans les bois un maillot de bain bleu, similaire à celui que portait Molly le jour de sa disparition. Les analyses ADN démontrent qu'il s'agit bien de son vêtement. Un vent de panique saisit la famille. Une fouille intensive s'active dans la région et on finit par trouver des ossements le 9 juin 2003 qui s'avèrent être ceux de Molly. La cause du décès n'a pas pu être trouvée, mais l'hypothèse principale, c'est qu'elle a été assassinée et enterrée dans ses bois. Donc, pour la suite de l'enquête, on a ciblé 3 personnes. Mais personne ne fut accusé officiellement. Donc, le premier suspect, je ne sais pas si tu veux montrer les photos, Yop. Donc, le premier suspect, c'est celui avec les cheveux, la moustache brune et les cheveux blancs. Cet homme s'appelle Rodney Stanger, je ne sais pas. Donc, Rodney S., c'est un résident de la Floride. Il est arrêté pour le meurtre de sa conjointe. Il s'avère qu'il a demeuré au Massachusetts près du lieu de meurtre de Molly durant plus d'une vingtaine d'années. Il aurait déménagé en Floride environ 1 an après la disparition de la jeune femme. Donc, suite au meurtre de sa conjointe, la sœur de Stanger alerte la police du Massachusetts que son frère aurait pu avoir accès à un véhicule de type... c'est vraiment une voiture américaine là, des années 90. Il aurait pu avoir accès à une voiture blanche comme décrit dans... dans les indices des suspects. Et c'était aussi un fervent pêcheur. Il allait souvent au Cummins Pond, là où elle a disparu. Et il allait aussi chasser dans les boisés avoisinants fréquemment. Qui plus est, son apparence physique se rapproche énormément là, du dessin composite recréé par la dessinatrice et raconté par Maggie. En 2011, il y a un informateur du nom de Gerald Battistoni. Ça, c'est l'homme avec le polo bleu. Donc, lui, il était relié. Dans le comté, il y avait un espèce de comité antinarcotique. Lui, c'était un informateur. Donc, probablement un ancien dealer. Donc, lui, il a été enquêté comme suspect dans l'histoire aussi. Parce qu'il y aurait eu des ressemblances physiques avec le portrait robot. Mais là, il n'y a plus de moustache, mais on parle de 2011. Donc, encore une fois, c'est une dizaine d'années plus tard. Lui, dans le fond, il a été emprisonné pour viol d'adolescente dans les années 90. Il a tenté de se suicider en prison après l'annonce qu'il était un suspect potentiel dans le cas de Molly Bish. Il aurait pu être dans les alentours, près des dates de la disparition, selon certains témoins. Puis il y a un détective privé du nom de Dan Marley qui a demandé du testing ADN entre le maillot et l'homme, mais il n'y a rien de concluant qui est ressorti. Donc, il n'a pas pu être accusé. Finalement, en 2021, donc encore plus récemment, il y a un nouveau souffle qui se donne à l'enquête quand le procureur du Worcester County qui est dans le fond le comté dans lequel elle est disparue. Il annonce qu'il y a une nouvelle personne d'intérêt dans le cas de Molly Bish. C'est un prédateur sexuel du nom de Francis P. Sumner Jr. Lui, il possède un dossier criminel de plus de 20 pages, incluant des viols, des voies de fait, des kidnappings. Donc, c'était vraiment une personne d'intérêt. Il aurait été considéré comme potentiel suspect dans l'affaire. Par contre, il serait décédé depuis 2016.
Ah oui.
La raison pour laquelle il a été considéré, c'est qu'il a été en prison longtemps, sauf qu'il a été libéré en 97, donc 3 ans avant le kidnapping et le meurtre. Et il n'a pas été revu. Il n'a pas été revu après. Il n'a pas fait l'attention des médias. Là, t'sais, il a comme... C'est peut-être caché, je ne sais pas. Donc, suite à un indice du public, on aurait ressorti son dossier et débuté une enquête qui pouvait le lier à Molly Bish. Mais au moment actuel, l'enquête est toujours en cours.
Il y a un petit air, je trouve. Je trouve que c'est peut-être celui-ci qui ressemble le plus au dessin, non?
Ouais.
Et encore?
Tu sais, ouais. C'est difficile de dire qui a fait quoi, mais ce qu'on sait, c'est que, bon, on a retrouvé des ossements.
Bon, on sait qu'elle est morte, quoi.
On sait qu'elle est morte. On le sait que c'était pas le genre à chercher le trouble. Je veux dire, elle aurait pas eu des mauvaises fréquentations, par exemple. C'était pas du tout le genre. Elle était impliquée dans le sport, à l'école, à l'extérieur. C'était vraiment une jeune fille qui était promise probablement un avenir vraiment, tu sais, linéaire. Je sais pas. Je veux dire, elle avait toute la vie devant elle. Puis elle était fière de ça. Elle était vraiment fière d'aller travailler. Puis c'était important pour elle. Donc, la pauvre... j'ai lu un article dans lequel c'est que derrière l'espèce de petit lac artificiel, il y avait un chemin en terre qui allait dans les boisés. Et au fond, il y avait un cimetière. Ils ont trouvé des traces de camions ou de gros pneus dans ce chemin-là. Puis, ben, ils n'ont pas vraiment regardé. C'est comme si, au moment où ça s'est passé, ils n'ont pas tenu compte qu'il y avait peut-être des traces. Puis, bon, les voitures de police sont passées là. Puis, finalement, les voitures de police américaines, ça peut ressembler au même modèle ou un modèle similaire de pneus que la voiture blanche. Donc, malheureusement, c'est une trace qui aurait pu être envisagée, mais que malheureusement, ils n'ont pas eu les techniques policières adéquates. Donc, voilà, c'est l'histoire de Molly Bish. J'espère que ça vous a intrigué autant que moi. Et c'est toujours bien triste de parler d'une jeune personne disparue et morte, puis tu sais, peut-être pire. Donc, voilà.
Surtout que c'est une personne qui avait la vie devant elle. 16 ans, quoi. Ouais. C'est d'autant plus triste.
Puis le corps était, après 3 ans, clairement, le corps n'était pas en état d'être analysé comme il faut. Fait qu'ils n'ont même pas pu savoir si elle avait été violée ou autre. Là.
C'était vraiment juste les ossements qui ont été retrouvés, quoi.
Ouais, exact.
C'est fou d'ailleurs que le maillot de bain, lui, il a été récupéré assez presque intact, en fait.
Mais il n'était pas avec les ossements.
Ouais, mais je pensais qu'il se serait quand même un peu désagrégé en 2 ans, mais a priori, non.
Écoute, c'est du plastique, hein? C'est du lycra.
C'est vrai.
Ça se décompose pas vraiment. Tu sais, il était peut-être abîmé, là, mais je pense qu'ils ont pu faire le lien assez vite. Puis, tu sais, moi, si je suis une mère, puis on trouve le maillot de mon enfant qui était censé l'avoir sur elle, pas avec ses os. Je comprends
qu'il y a eu
autre chose qu'un meurtre, là.
Ouais.
C'est ce qui est super malheureux, là, bien sûr. Tout ça est malheureux, mais c'est comme... On dirait que ça ajoute un...
Ça ajoute un truc que t'as même pas envie de savoir, quoi. Tu vois, c'est ta fille... tu vois, tu le sais, mais... Mais voilà, quoi.
C'est bien triste, tout ça. Et dans le fond... Ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'enquête est toujours en cours. C'est pas un cold case.
C'est déjà pas mal, en fait. Ça veut dire qu'ils ont quand même des éléments pour, a priori, ne pas fermer l'enquête.
Il y a encore des suspects potentiels. Puis Il y a des nouvelles mesures d'ADN là, maintenant, peut-être qu'ils vont pouvoir, avec le maillot de bain, aller plus loin. Les bases de données maintenant, avec les Ancestry.com et compagnie, on peut retrouver quelqu'un à partir d'un descendant, un cousin, un frère, une mère. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va réussir à découvrir qui a fait ça à Molly Bish, puis j'espère qu'il est
En
mort.
tout cas, s'il n'est pas mort, il est assez vieux maintenant.
Ouais. J'espère que. Ben, tu sais, pour la famille, tu sais, le frère, elle avait une sœur aussi. Donc, tu sais, je pense que pour la famille, ça serait important d'avoir un closure à toute cette histoire-là.
J'espère qu'on aura la résolution de cette affaire
Ouais.
peut-être dans quelques années avec effectivement, comme tu disais, au final, les techniques changent, on a des nouvelles solutions, tout ce qui est, j'allais dire, DNA, ADN,
DNA.
DNA, il y a des choses qui ont vachement évolué en 23 ans, 23 ans, hein, quand même. Hein, donc,
Ben, tu sais, j'écoute quand même beaucoup de documentaires de true crime. Puis d'ailleurs, il y a un. Je vais vous parler brièvement d'un autre cas. Ben, juste vite, vite pour que vous ayez voir l'émission. C'est le cas de Sharon Pryor. Ça s'est passé à Montréal. C'était aussi une adolescente de 16 ans qui a été violée, assassinée. Elle a été retrouvée à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Elle, dans le fond, l'enquête, c'est en 75, en 1975, et l'enquête a été complétée cette année.
ah ouais.
Donc, ce n'était pas un cold case, c'était un cas ouvert. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que la police est en train de réouvrir tout plein de cold cases parce qu'ils ont une nouvelle méthode d'analyse. Justement, c'est là que j'ai appris que,
C'est génial, hein.
ouais, avec les kits d'ADN génétique, là, tu sais, les gens là, qui font des tests de salive à la maison pour savoir,
Ouais.
ça, là, ça permet, c'est hyper précis, puis tu peux aller trouver. Tu trouves des lignées de gens. Donc, si par exemple, il y a une correspondance avec une personne
Un descendant d'un tueur.
ou d'un prédateur sexuel ou autre, ben, ça,
Ouais.
on peut remonter la ligne. Fait qu'on peut trouver un frère, on peut trouver un père, on peut trouver. Puis si c'était un des suspects ou qu'on se rend compte que dans la famille génétique, on a peut-être un frère ou un cousin qui aurait fait de la prison pour X, Y, Z, ben, on peut facilement les associer. Puis, en tout cas, je vous vendrai pas la mèche, mais il faut vraiment aller voir le documentaire. Je pense qu'il est sur Crave et ça ne dure vraiment pas longtemps, c'est 45 minutes. Puis c'est vraiment la conclusion de l'histoire. Ils ont trouvé le meurtrier finalement après 50 ans, là. Puis la mère de Sharon Pryor est encore en vie aujourd'hui. Elle a plus de 90 ans. Puis elle a pu faire boucler la boucle, là. De ça. C'est vraiment
Ouais.
hot. Puis c'est un documentaire fait ici.
Et du coup, la personne qui a été incriminée, elle est encore vivante?
Non, mais c'est grâce à l'ADN de membres de sa famille qui ont pu démontrer.
C'est un
Ouais,
descendant, quoi.
c'est fou.
Mais effectivement, au moins, la famille a un dénouement, quoi.
Exact. Puis t'sais,
Et
la femme.
tu vois, dans le chat, ça dit, ouais, c'est mieux de savoir, je pense que l'incertitude, c'est le pire. Au moins, t'as un dénouement, quoi. Même si c'est pas le dénouement que tu aurais espéré, bah ouais, comme dit Hawk, bah voilà, tu peux processer le truc au mieux,
Exact.
quoi.
Puis il y a Ruby qui dit que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire Ancestry DNA ou 23andMe parce qu'on snitch notre famille. Mais en même temps, on contribue à l'avancement de cas, de peut-être de cold case. Moi, je n'ai rien à cacher, ça ne me dérange pas. C'est intéressant. C'est quoi le livre Papalicious? Il y a Papalicious qui dit, ça me fait un peu penser au bouquin de Michael Connelly où le tueur choisit ses victimes sur des sites de type Ancestry. Tu nous donneras la ref.
Parce que ces sites-là, ils sont ouverts. Moi, je pensais que ce genre de site, c'était justement tu. Alors, je me trompe peut-être avec d'autres sites, mais là, c'est tu fournis ton ADN et en gros, ils te trouvent ta lignée, ils te disent
Ouais.
t'es à
Mais
90% machin, 10%
la police a
truc.
accès.
Oui, la police a accès, par contre, ouais, la police a accès à tout.
Donc, c'est ce qui conclut le cas de Molly Bish et Petit Rocco. en passant de Sharon Pryor et du documentaire qu'on va vous mettre dans la description de l'épisode.
Yes. Eh ben, trop bien. On va pouvoir conclure l'épisode. J'enregistre l'outro et puis après, on discutera tranquille avec le chat pour terminer. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais merci à toi, Xara, d'avoir co-animé cet épisode avec brio.
C'est un plaisir d'être là encore. Puis j'ai hâte de revenir.
Bah ouais, bah plaisir partagé. Oui. Tu reviens quand tu veux, comme d'hab. Hein. Faut juste que je sois un petit peu plus. Que je sorte de mes épisodes un petit peu plus souvent, que je sois meilleur niveau récurrence.
Oui.
Mais ça va revenir. Ça va revenir. Sinon, les petites piqûres de rappel, le Rendez-vous de l'étrange, c'est un podcast du label Les Antipodes. Donc, si vous voulez rejoindre la super commu du label, on a un serveur Discord. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram, nous regarder en live sur Twitch, twitch.tv/jesuishop, ou en replay sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver tous les mois dans le podcast avant d'aller dormir. Donc, tous les liens sont dans la description. Mais le plus important des liens, c'est celui du Patreon, hein, patreon.com/jesuishop. C'est à partir d'un euro par mois et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et ça vous permet en contrepartie d'avoir accès aux épisodes avant tout le monde, à des coulisses, à des épisodes privés dont on a discuté avec Xara tout à l'heure. Donc si vous voulez plus de Xara, eh ben, abonnez-vous. J'en profite aussi pour remercier Nadia Pinup qui a sub sur Twitch pendant l'épisode. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci encore à toi Xara. À bientôt tout le monde. On se retrouve le dernier vendredi du mois pour l'épisode privé, et puis le 7 juillet pour le prochain live du Rendez-vous de l'étrange. Donc rendez-vous 7 juillet, et sinon tous les vendredis je stream à partir de 21h30, on fait des creepypasta. Je vais tenter aussi de faire des let's not meet, donc des mauvaises rencontres, donc des témoignages. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et aussi Xara sur Xara Molly sur,
oui.
Sur Twitch.
Je vais essayer, je vais prendre les recos.
Et ben en attendant voilà, que tu te lances sur Twitch, on peut te contacter sur Discord, donc Xara Molly, hein, sur le Discord des Antipodes. Donc voilà, je crois qu'on va vous laisser. Et puis bah, prenez soin de vous. Bisous.
Bisous, bisous.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.